Et Franck Ferrand a choisi de nous présenter aujourd'hui sur Europe 1 un de ces grands penseurs qui ont bouleversé leur époque et conditionné la nôtre. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Charles Darwin vivait il y a un siècle et demi et c'est lui qui, à la fin des années 1830, a eu le premier l'intuition que l'évolution des espèces animales était liée à la sélection naturelle. Il en a fait un ouvrage plus tard, au bout de 20 ans de réflexion tout de même, puisque l'ouvrage en question est paru en 1859. Son titre est bien connu, de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l'existence dans la nature.
Et un siècle et demi plus tard, la plupart des scientifiques qui travaillent sur ces phénomènes sont les disciples de Darwin.
Oui, mais des disciples plus ou moins obéissants, plus ou moins remuants, vous allez voir ça. Nous ne parlerons pas aujourd'hui des créationnistes américains notamment qui remettent complètement en cause l'évolutionnisme, mais même parmi l'immense majorité des scientifiques qui admettent évidemment que les espèces évoluent, certains affirment qu'elles n'évoluent pas tout à fait selon les principes établi par Darwin. Pour en parler tout à l'heure, nous allons recevoir Patrice Van Hersel, à qui je dois, en ce qui me concerne, un goût prononcé pour l'histoire de la pensée scientifique. Je mesure donc aujourd'hui la chance qui est la mienne et par conséquent, la chance qui est la vôtre.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Vous le disiez, Julia, certaines personnes très rares ont le pouvoir de changer le regard que l'humanité porte sur le monde et qu'elle porte sur elle-même. Nous parlions il y a quelques jours de Freud, qui fait partie de ces rares élus. Eh bien, j'aimerais aborder aujourd'hui le cas de Darwin. L'objet de sa recherche parle forcément à tout le monde puisqu'il s'agit de sélection naturelle comme facteur de l'évolution des différentes espèces, dont la nôtre. Attention, ne commettons pas l'erreur de penser que c'est Darwin qui, le premier, aurait balayé la vieille idée fixiste selon laquelle le monde aurait été créé tel quel et qu'il n'aurait pas changé d'un iota depuis cette création. Avant Darwin, d'autres savants, et notamment un Français, le chevalier de Lamarck, le père du transformisme biologique, avait pris conscience de cette transformation progressive des espèces et de leur évolution. Selon Lamarck, les espèces descendraient les unes des autres et évolueraient sous l'effet de certains besoins. On résumera sa pensée en disant que la fonction crée l'organe. Autant dire qu'avec Lamarck, on avait déjà accompli un grand pas. Mais Darwin a eu le mérite d'ancrer l'évolutionnisme dans les consciences des scientifiques de son temps et surtout, il a eu cette intuition du processus même de l'évolution par la sélection naturelle. Selon lui, les espèces animales telles que nous les connaissons seraient le fruit d'une très très longue série de mutations qui les feraient descendre à très long terme d'un ancêtre commun ou de quelques organismes d'origine présents dans l'océan primitif. Il y a de quoi se sentir pris de vertige et pour les tenants de l'interprétation littérale de la Bible, à l'époque il y a eu évidemment de quoi se mettre en colère. Certains ont prétendu qu'avec sa théorie, Darwin avait provoqué, je cite, « le plus grand choc psychologique en Occident depuis l'apparition du christianisme ». C'est peut-être excessif, mais on pourrait croire à bon droit du moins que l'homme qui se trouve à l'origine d'un tel séisme intellectuel a dû être une sorte de personnage surhumain, un très brillant causeur, un maître capable d'hypnotiser les foules d'un seul regard. Eh bien, pas du tout. Charles Darwin était un petit bonhomme, très obstiné certes, mais en même temps assez casanier, excessivement discret et prudent, toujours un peu souffreteux et qui était affecté d'un grave défaut d'élocution. Il paniquait dès qu'il avait à prendre la parole, même devant un petit auditoire, dit-on. Pendant son adolescence, ce cinquième de six enfants, qui était le deuxième fils de la famille Darwin, inquiétait son père quant à son avenir. Son père Robert était un riche médecin et surtout son grand-père, Erasmus Darwin, était un naturaliste célèbre et qui du reste avait déjà contesté la théorie fixiste, donc non-évolutionniste, qui à l'époque était en vigueur. Charles aurait pu s'orienter vers l'industrie. Après tout, sa mère, qui meurt alors qu'il a 8 ans, était née Wedgwood, de la célèbre maison de porcelainier Wedgwood. Et plus tard, il épousera d'ailleurs sa cousine Emma Wedgwood. Il devait y avoir chez les Darwin de bien jolis services à thé. Mais non, c'est vers la médecine de son père que s'oriente le jeune Charles, même s'il ne manifeste visiblement aucune disposition pour cela. Lui, ce qu'il aime, ce sont les animaux. Il adore la pêche, la chasse. Il se révèle excellent dans la sélection des chiens de chasse. Ça ne trahit pas. Il collectionne les insectes, les œufs d'oiseaux. Il s'initie assez jeune à la taxidermie. Ce qu'il fascine pour résumer ça en peu de mots, ce sont les formes. Les formes parfois tellement étranges que prend la nature. On est à la grande époque des classifications en tout genre. Vous savez, 50 ans plus tôt, le Suédois Linné a classifié les êtres vivants. Eh bien, en ce premier tiers du 19e siècle, on peut dire que Darwin, le jeune Darwin, Charles, partage la passion des gens évolués de son temps pour les herbiers et les collections de papillons. À l'université de médecine d'Édimbourg, Darwin est effrayé par le sang. Ce monde médical ne lui plaît pas du tout, ce qui désespère son père. On ne sait pas quoi faire de lui, je vous le dis. Finalement, on décide de le réorienter vers la théologie et c'est dès lors à Cambridge, en étudiant la botanique avec le professeur Henslow, que Darwin se voit proposer la plus fructueuse expérience de toute sa vie. Henslow, en effet, va le recommander pour accompagner en tant que naturaliste un certain capitaine Fitzroy, qui à bord de son navire, le Beagle, doit s'en aller faire le tour du monde.
Sur Europe 1 de la 4e symphonie composée par Johannes Brahms Franck.
Nous sommes pour parler de Darwin en compagnie d'Alain Sirou, qu'on ne présente pas, que connaissent évidemment les auditeurs d'Europe 1. C'est le monsieur science de la maison.
Bonjour,
et puis Patrick Thor. Patrick Thor est philosophe, historien. Il est le grand spécialiste de Darwin, dont il dirige du reste aux éditions Slatkin Champion la publication des œuvres complètes. Nous sommes en leur compagnie dans un instant.
Nous sommes au cœur de la révolution Darwin aujourd'hui sur Europe 1. Avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec vos deux invités, Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1. Il est aussi directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Également avec nous, Patrick Thor, qui est philosophe, historien des sciences, spécialiste du darwinisme. Il est d'ailleurs fondateur et directeur de l'Institut Charles Darwin International.
Et cet Institut Charles Darwin International possède une adresse email, évidemment, c'est www.darwinisme.org. Bonjour Patrick Thor.
Bonjour.
Bonjour à Alain Sirou. Alors nous avons laissé notre Charles Darwin, j'allais dire adolescent, en tout cas jeune homme, partant pour ce grand voyage à travers le monde sur le Beagle. On peut dire que ce voyage va être pour lui l'expérience décisive, Patrick Thor.
C'est décisif dans l'exacte mesure où ça va l'amener non pas immédiatement à produire sa théorie, qui ne sera produite intellectuellement qu'à l'automne 1838, mais ça va le conduire à douter des certitudes qu'il pensait avoir au départ. Le jeune Darwin, sortant de Cambridge, et devant donc concevoir le monde suivant la représentation théologique, va se trouver face à des phénomènes biologiques ou paléontologiques qui vont remettre en cause radicalement ces certitudes. Alors, pour aller très vite, il y en a de deux sortes. D'abord, constater que des animaux qu'ils rencontrent à certaines latitudes vont présenter des différences à mesure qu'il va changer de latitude. C'est le cas typiquement des autruches, qui sont en fait des nandous, pour employer le vocabulaire scientifique adéquat aujourd'hui, mais ils parlent d'autruches. Et ces autruches, qui sont l'Area Americana dans le nord de la Patagonie et qui est un animal connu, eh bien, elle va laisser place petit à petit, en descendant vers le sud,
qu'on voyage,
à
oui,
une autruche plus petite qui a un certain nombre de caractéristiques particulières par rapport à elle, notamment une taille beaucoup plus petite, un rapport différent de la longueur du bec à la longueur totale de la tête, etc. Et cela l'intrigue, et ce qui se passe dans la tête de Darwin, où j'habite, comme vous le savez, c'est l'idée que...
J'espère que c'est confortable.
Comment on y tient. Un créateur, au pouvoir de création infini, a-t-il pu créer deux animaux qui se ressemblent si fort et qui sont en plus dans la proximité l'un de l'autre? Un créateur au pouvoir infini ne peut pas s'être contenté d'une aussi maigre différence. Et cela, il va le ressentir à nouveau sur l'autre axe, l'axe vertical, celui de la paléontologie. Quand il va découvrir des restes du grand tatou géant, et qu'il va percevoir, bien sûr, la ressemblance entre ces vestiges et ce qu'il sait, d'une manière directe, du petit tatou velu de Patagonie, par exemple, qu'il a forcément croisé, eh bien, il va se dire encore une fois, mais comment un créateur au pouvoir de création infini a-t-il pu non seulement créer des animaux qui se ressemblent si fort, c'est-à-dire faire un si piètre usage de sa capacité créatrice, et d'autre part, induire dans nos esprits l'idée que, vu cette ressemblance, ils sont peut-être parents, ce qui est très exactement le contraire de ce que défend son Église.
Mais donc ça, c'est de l'empirisme, c'est de l'observation de la nature. Est-ce qu'il n'avait pas avant cela un certain nombre, ne serait-ce que par les travaux qu'avait effectué son propre grand-père, un certain nombre d'intuitions sur l'évolution des espèces?
Alors, il faut voir à quel moment Darwin va relire son grand-père. Lorsqu'il fait le voyage...
On est en quelle année, il faut rappeler?
Alors, nous sommes en... L'année dont je parle, c'est essentiellement les deux années, c'est 1832, 1833, 1834. Hein, ça correspond à cette longue exploration de l'Amérique du Sud. Et un peu plus loin, en 35, il y aura les Galapagos qui, elles, vont apporter un élément décisif, nous le verrons peut-être, hein, les fameux pinsons. Pour ce qui est d'Erasmus Darwin, Charles...
C'est donc le grand-père.
N'est pas encore très familier de tout cela. Il sait par tradition familiale ce qu'a fait son grand-père. Mais c'est toujours au moment où il va produire un livre important. Par exemple, quand il va se mettre à penser sérieusement à la théorie qui sera la sienne, quand il va rédiger l'origine des espèces, etc., il y aura toujours à un certain moment relecture de la fameuse zoonomia qui, effectivement, choisissait le camp transformiste, hein, en 1794, parce que c'est dans le premier volume, la zoonomia a été édité en 94 et deuxième volume en 96, c'est-à-dire 1794, six ans avant la formulation publique par Lamarck dans un cours d'ouverture du muséum de son propre transformisme. Il y a donc une avance là.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien Darwin qui aurait le premier évoqué l'évolution, la transformation des espèces, mais c'est pas le Darwin dont on qu'on croit.
Le premier nom. Il y a d'autres. Il y a un Français qui s'appelait Michel Adanson, oui. qui est arrivé par la classification et par la botanique. C'est un immense botaniste, hein, Adanson, dont on ne parle absolument plus, bien entendu. C'était un homme assez remarquable et qui vécut toute sa vie dans la pauvreté, qui, en 1763, dans ses familles des plantes, aboutit à des conclusions transformistes.
On a l'impression d'un personnage d'une grande humilité, finalement, Alain Sirroux.
Oui, d'une grande humilité, mais ce qui est fantastique dans le voyage du Beagle, c'est que c'est le triomphe de la curiosité d'un homme qui, finalement, était... Je veux dire, Darwin, c'est quelqu'un qui n'était pas bon à l'école, qui prétendait pas faire de la science, que la famille considérait comme étant, il voulait pas être médecin, il avait peur du sang. Pasteur, ça le passionnait pas. Et puis là, paf, on le met dans un bateau. Il a envie quand même. Hein. On le met dans un bateau qui part pendant 5 ans. 5 ans de voyage avec un capitaine extraordinaire qui a 22 ans. Qui est un
26.
26, pardon.
Je
suis toujours sous le couvert hein, de Patrick. Et effectivement, il va faire un voyage extraordinaire en naturaliste. Mais pas qu'en naturaliste, il va regarder aussi les roches, la géologie, il va regarder les coraux, il va regarder le monde qui l'entoure, et ce monde est un monde qui va disparaître aussi. C'est-à-dire qu'on est au milieu du 19e, et je veux dire, les grands voyages naturalistes sont en cours, et quelque part, il va témoigner avec l'œil du curieux, et pas du savant d'abord, hein, mais du curieux, d'un monde qui va disparaître et qui est merveilleux.
Vous voyez qu'on y est encore une fois, nous y revenons, le pouvoir de l'observation.
En attendant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec vos deux invités sur Europe 1. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de Darwin et de l'évolution des espèces en compagnie de Patrick Thore, qui est philosophe, historien des sciences, et Alain Sirroux, qui est consultant scientifique d'Europe 1.
Alors Alain Sirroux, ce qu'on vient de découvrir, c'est qu'au cours de ce voyage sur le Beagle, ce grand voyage autour du monde, Darwin prend conscience d'une sorte de mutation permanente, d'évolution, le vivant est en perpétuelle mutation.
Oui, parce qu'il a il a sous les yeux une multitude d'exemples. Patrick Thore le rappelait, mais on cite souvent le fameux pinson de Darwin, où il découvre effectivement que ce petit oiseau, qui ressemble à un pinson bien connu, a un bec différent sur l'île où il est. Et effectivement, il se dit, mais c'est la même espèce, mais ils n'ont pas les mêmes caractères. Donc il y a quelque chose qui est, je dirais, un indice montrant que un isolement, en tout cas une façon de vivre pour une espèce qui est différente de là où on la caractérise normalement, entraîne potentiellement une évolution.
Ce qui est étonnant,
c'est au retour du voyage qu'il prendra conscience du fait qu'il s'agit d'espèces différentes grâce à John Gould qui va le lui révéler à travers l'examen effectivement scientifique et comparatif des vestiges, des dépouilles d'oiseaux qu'il a rapportées.
Et justement, tout ça va faire l'objet d'une lente, très lente maturation. On pourrait penser que dès 1839-40, Darwin serait en mesure de publier le résultat de ses observations. Il faut attendre 1859, 20 années de maturation.
Alors là, je ne peux que vous inviter, vu le temps dont nous disposons, à lire les 230 pages de préface que j'ai faites à l'édition Champion, l'édition du bicentenaire de l'origine des espèces, parce que c'est là que tout est expliqué. Pour intervenir vraiment très très rapidement là-dessus, il y a eu plusieurs étapes. Un premier brouillon auquel Darwin se réfère plus tard, d'ailleurs très court, une demi-page, une page, de 1839. Une première esquisse que nous avons publiée chez Sletkin également, qui est l'esquisse de 1842. Une seconde esquisse de 1844 et il faudra attendre 1859 pour avoir effectivement ce résumé d'un ouvrage beaucoup plus vaste, le fameux Big Book sur les espèces qu'il préparait et qu'il édite dites donc sous cette forme abrégée à cause de l'urgence qu'il y avait en quelque sorte de ne pas voir sa priorité légitime par rapport à Wallace qui vient de découvrir grosso modo les mêmes choses.
Mais ils sont de
14 ans son cadet. Mais là j'aurais des choses à dire là-dessus parce
sur
que
Wallace,
Darwin a été admirable, il est torturé par le scrupule, il a voulu que le texte de Wallace soit publié en même temps que le sien lors de la présentation de juillet 1858 devant la Linnean Society et voilà. C'était fantastiquement honoré d'être aux côtés, non pas physiquement puisqu'il était en Malaisie, mais symboliquement à travers ses textes, aux côtés donc d'un naturaliste qu'il admirait beaucoup et qui s'appelait Charles Darwin. Il n'y a donc pas de question de priorité. Darwin n'a lésé personne. Au contraire, il a tenu à ne jamais paraître être soucieux de priorité, mais il l'était quand même profondément puisque ça représentait des années de méditation et de travail.
Vous me rassurez, Patrick Thore, parce que j'avais prévu initialement de consacrer mon récit à cette espèce de course entre Darwin et Wallace, et finalement j'ai changé, je vais plutôt parler des créationnistes américains dans les années 20. Il faut dire que dès le deuxième tiers du 19e siècle, la publication des travaux de Darwin fait un scandale, Alain Sirou. Alors un certain nombre de scientifiques suivent, mais pas tout le monde, loin de là.
Ben oui, parce que si on caricature un peu les conclusions, elles sont à l'image de... Moi je dirais l'image d'Einstein, quand Einstein dit l'univers n'a pas toujours existé et qu'il en même temps résiste à cela en montrant que cet univers par exemple a une histoire et que ce que nous observons aujourd'hui n'est que le résultat d'une évolution. Et bien là on a la même révolution et pourtant on ne peut pas comparer Darwin à Einstein, ni à Galilée, ni à Newton. Ce n'est pas le même type de personnage, mais je dirais qu'il dit deux choses fondamentales. La première c'est que toutes les espèces ont des ancêtres ou un ancêtre commun, y compris l'homme. Et la seconde chose, c'est que finalement, cette évolution, elle est, en quelque sorte motorisée, ou en tout cas accentuée ou dynamisée par des changements qui sont des changements aléatoires. C'est le hasard. Il n'y a pas quelqu'un qui décide d'un sens. Et c'est ça qui aussi est absolument terrible.
Évidemment, ça bouscule un peu
les ça nous touche toujours encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a décidé que ça allait dans ce sens-là. C'est le hasard.
Alors vous restez tous les deux en notre compagnie puisque nous allons voir justement quelles sont les conséquences de ce pavé dans la mare, si je puis dire. C'est Alran qui disait « Il incombe aux grands hommes de donner des secousses à leur temps. La secousse donnée, sauf qui peut. » Nous allons voir si ça a été dans la communauté scientifique de l'époque et dans toutes celles qui ont succédé à celle-là, si ça a été effectivement le souffle qui peut.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Place maintenant à votre récit, Franck, sur Europe 1, consacré aujourd'hui aux créationnistes américains.
Le regretté Laurent Le Châtelier, qui était documentaliste d'Europe 1, m'avait transmis il y a quelques années un article de plus de 30 ans dans lequel Liliane Crété, qui est une habituée de cette émission, évoquait l'étrange procès intenté en 1925 à un jeune prof de sciences du lycée de Dayton dans le Tennessee. Dayton est au pied des superbes montagnes bleues du Cumberland. Nom de l'accusé, John Scopes. Il a 24 ans à l'époque, ce John Scopes. Il se trouve être aussi l'entraîneur de football du lycée. Formulation du chef d'inculpation, ça ne s'invente pas. Je cite, « Scopes a, en violation de la loi du Tennessee, appris à ses élèves que l'homme descendrait d'une espèce animale inférieure. » Oh là là. Voilà l'affaire qu'à la mi-juillet 1925, un jury de 12 membres, 10 fermiers, un maître d'école et un employé de bureau ont eu à juger. La cour est sous la présidence d'un juge Rolston ultra-religieux. L'accusation est soutenue par des personnalités charismatiques, le jeune attorney du district, Stuart, et le truculent avocat Ben McKenzie, et surtout son fils, le fondamentaliste Brian, qui est un leader populiste, ancien secrétaire d'État de Wilson et plusieurs fois candidat à la présidence. Pour défendre le jeune professeur, il y a un grand maître du barreau, Clarence Darrow, assisté de deux ténors qui ont beaucoup participé également au débat. Précisons que la population de Dayton, ville du sud un peu caricaturale, est peuplée de blancs à 98% et fondamentaliste à 99,5%, population entièrement protestante, précisons-le, et qui se répartit entre les cinq églises locales. Autant dire qu'à Dayton, en 1925, il serait d'ailleurs intéressant de savoir ce qu'il en est aujourd'hui en 2012. Dans ce coin du Tennessee à l'époque, tout le monde est absolument convaincu que Dieu a créé l'homme à son image et la femme à partir d'une côte d'Adam. Les idées de Darwin, déjà très peu populaires aux États-Unis, n'ont jamais atteint les limites de cette petite ville. Les fondements de la République américaine reposent sur la Bible, si l'on en croit les fondamentalistes. Il est du devoir des parents de soustraire leurs enfants qui représentent l'avenir de l'Amérique à l'influence néfaste pour l'âme de l'hérésie darwinienne. Voilà ce qu'on peut lire sur les tracts qui sont distribués à l'époque. Du reste, le Tennessee en général et Dayton en particulier ne sont pas, en ces années 1920, le seul endroit rétif à la pensée de Darwin. La Floride, le Mississippi, l'Arkansas et l'Oklahoma viennent également de décréter le darwinisme hors la loi purement et simplement. Il faut voir le contexte. On est au lendemain de la Grande Guerre. C'est l'époque où triomphent le jazz et le sport, certes aux États-Unis, mais en même temps, l'Amérique se crispe dans la prohibition, dans le fondamentalisme, dans les croisades racistes du Ku Klux Klan, etc. Pour reprendre les termes d'un journaliste anglais, ce procès Scope, c'est le procès du traditionnalisme contre le modernisme, du Sud contre le Nord, de la petite ville contre la cité, de la bigoterie contre la tolérance, et il résume de Dieu contre les autres. Or, et c'est ce qu'il faut préciser d'emblée, ce procès de John Scope a été monté de toutes pièces. Ce sont deux libres penseurs locaux, qui sont respectivement propriétaires d'une mine et d'un drugstore, qui ont demandé au jeune prof d'accepter d'être traduit en justice pour avoir enfreint la loi de l'État contre le darwinisme. Il lui explique que tous les frais du procès seront pris en charge par une association de New York, l'Union des libertés civiles américaines. Il s'agit de faire ce qu'on appelle aux États-Unis un test case, c'est-à-dire de susciter un procès pour faire jurisprudence dans un sens donné. John Scopes a donné son accord et ce sont donc ses propres amis qui vont porter plainte contre lui pour le faire arrêter, très artificiellement évidemment, sous le motif qu'il a enseigné les théories de Darwin. Vous avez bien compris que dans l'esprit des trois hommes, il s'agit surtout de faire du bruit, de faire un grand procès national sur la question, à peu de frais disons-le, car la sanction prévue pour l'infraction à cette loi du Tennessee est assez minime. La presse fédérale fait ses gros titres sur l'affaire, 12 correspondants étrangers arrivent et le jour où s'ouvre le procès, le 10 juillet 1925, il y a des centaines de journalistes, de militants des deux bords et de curieux devant le tribunal de Dayton. Il y a une ambiance un peu de grande kermesse comme on sait faire aux États-Unis, des prédicateurs, des hommes politiques, des bonimenteurs en tout genre essaient d'attirer l'attention de la foule qui ne va cesser de grossir. Il y a sans doute un côté folklorique évidemment dans ce rassemblement Dayton, mais derrière, ce qui est en question, c'est le projet des fondamentalistes de faire voter un amendement à la Constitution fédérale disposant que l'enseignement de la Bible constitue le fondement de la société des États-Unis. Le procès s'ouvre donc le 10 juillet à 9h, par une chaleur étouffante. Le héros n'en est pas le jeune Scopes, qui est un peu dépassé par les événements, mais bien les deux ténors de l'accusation et de la défense, le populiste Brian et l'humaniste Darrow. Notez que la séance s'ouvre par une prière, tout de même, ce qui nous met dans l'ambiance. Brian contre Darrow, ça va être le procès des partisans de Darwin contre ses opposants. Du côté de Darrow, le ton est d'emblée assez belliqueux. Jamais, clame-t-il devant la cour, jamais depuis le Moyen-Âge, on a vu tentative plus audacieuse, plus cynique pour détruire les libertés que cette loi anti-darwinienne donc. Aucun alinéa d'une constitution, quelle qu'elle soit, ne peut soutenir la bigoterie et l'ignorance lorsqu'il s'agit de la destruction des droits de l'individu. Et en face, l'attorney général réplique « Je veux savoir, moi, si au-delà de ce monde, le bonheur existe pour moi et pour les autres, devront-ils me faire croire que j'étais un ver de terre et que je me tortillais dans la poussière et qu'il n'y aurait pas pour moi, d'ailleurs, lorsque mon dernier souffle aura quitté mon corps ?» Vous voyez bien que c'est un débat philosophique essentiel qui se pose à la société. Depuis des années, j'ai étudié le comportement de ces bêtes, dit un expert, il s'appelle Hubbard Nye, il est arrivé avec un chimpanzé à la cour. J'ai étudié le comportement de ces singes et je suis arrivé à la conclusion, étayée par des faits scientifiques, que Darwin s'est trompé. Nous ne descendons pas du singe, dit-il. Le singe est au contraire le produit de l'homme qui a déchu, c'est lui qui a dégénéré. Il s'agit d'un phénomène de dégénération et ce chimpanzé réfute à lui seul la théorie darwinienne, clame ce bonhomme. En brandissant des bannières, en roulant du tambour, nous marchons à reculons vers les temps glorieux du XVIe siècle où les bigots allumaient des fagots pour brûler les hommes, réplique Darrow. Des hommes qui avaient osé apporter à l'esprit humain un peu d'intelligence, de lumière et de culture. Je passe sur tous les rebondissements d'un procès qui a fait la une de la presse de cette époque. On est en 1925, ça a eu du retentissement jusqu'en France. Je passe sur tous les incidents de séance, sur le caractère absolument folklorique d'une fin de procès qui s'est déroulée sur la pelouse, tellement il faisait chaud dans la salle. On avait décidé d'exporter le tribunal au dehors en plein jour, en plein soleil aussi, disons-le. Finalement, sachez que dans le bras de fer entre Brian et Darrow, c'est Brian qui a perdu. Il a été profondément ridiculisé lorsqu'on lui a simplement posé un certain nombre de questions à partir du texte même de la Bible en lui demandant s'il croyait dur comme fer à un certain nombre des assertions contenues dans les Écritures. Brian a tellement perdu la face dans cette affaire qu'il mourra quelques jours seulement après l'énoncé du verdict. Un verdict qui était... un verdict de condamnation contre Scopes, qui a quand même dû payer $100 dans cette affaire pour avoir enfreint la loi de l'État. Mais au-delà de ce verdict de justice, il y a eu le verdict de l'opinion qui lui était très favorable, puisque dans cette affaire, ça a été un véritable triomphe, non seulement pour les darwiniens et les darwinistes, mais d'une façon plus générale pour les idées de progrès.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Darwin, l'évolution des espèces et les créationnistes. On en parle, Franck, avec vos invités sur Europe 1, Alain Siroux, consultant scientifique de votre radio, et Patrick Thor, philosophe et historien des sciences.
Alors, cet aspect, cette ouverture sur les créationnistes était une parenthèse que je vais d'ailleurs m'empresser de refermer avec vous, Alain Siroux. Il serait intéressant de voir ce qui se passe à Dayton, dans le Tennessee. Aujourd'hui, en 2012, il y a sans doute encore des grands adversaires de Darwin.
Ah oui, absolument. C'est d'ailleurs, je dirais, courant et classique de remarquer dans le monde américain aujourd'hui que certains proposent qu'on enseigne le darwinisme à égalité avec le créationnisme, qu'on a un peu maquillé depuis sous un nom un petit peu plus, je dirais, design. On appelle ça le dessin intelligent, avec l'idée, mais qui n'est pas très éloignée de l'initiale du récit de la Genèse, que l'univers, et en particulier le grand architecte de l'univers, a soigneusement sélectionner les lois avec une extrême finesse pour nous permettre, nous, son descendant, en tout cas direct, d'arriver.
Et en dehors des États-Unis, il y a des contestations sérieuses de Darwin ?
Oui, alors disons que c'est surtout aux États-Unis, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le darwinisme est une théorie complexe, et au sens moderne, je dirais que c'est un programme de recherche, et comme tout programme de recherche, on doit pouvoir le questionner à tout instant et le faire évoluer, puisqu'il s'appuie aujourd'hui sur la génétique.
Alors, via Facebook, Sophie nous dit « Les thèses de Darwin sont très discutées. Est-il vrai qu'il aurait falsifié des expériences pour aboutir à des résultats conformes à son présupposé ?» Je vous vois soupirer, Patrick Thore.
C'est grotesque. Quelles expériences, j'aimerais bien
savoir. Oui, d'abord, il n'a pas eu d'expérience dans son travail.
Il a expérimenté, si beaucoup, en physiologie végétale, etc. Mais je ne vois pas comment il aurait pu falsifier et pourquoi. Là, vraiment, je ne vois pas. Mais je m'aperçois qu'ici, on a parlé beaucoup du créationnisme, qui n'offre évidemment scientifiquement aucun intérêt, et qu'on n'a même pas dit un mot de la théorie darwinienne. C'est-à-dire, la théorie de la descendance modifiée par le moyen de la sélection naturelle, ça a une histoire épistémologiquement complexe et passionnante, on n'en a pas dit un mot. Donc, en fait, je pense qu'il faut renvoyer aux ouvrages qui en parlent, et si... Pourquoi ne pas... Il y a eu un plateau d'auteurs internationaux en France qui, en 1996, ont publié cette somme extraordinaire qu'est le dictionnaire du darwinisme et de l'évolution. Et ce que je dis là est un hommage à mes collaborateurs. Là, il y a des réponses à des milliers de questions scientifiques. Alors, bien sûr, que l'on considère le créationnisme comme un phénomène de société, ça se défend. Mais à ce moment-là, on fait un débat entre sociologues des idées religieuses, mais on n'oppose pas, comme aux États-Unis, dans un grand spectacle national et international, un créationniste à un sociobiologiste, c'est-à-dire une caricature de croyant à une caricature de darwinien.
Non, certes, il ne s'agissait pas du tout de faire du
spectacle. Non, mais je tenais à vous dire parce que c'est précisément ce dont nous souffrons, scientifiques et théoriciens des sciences, depuis trop longtemps, pour que on continue à jouer ce jeu qui consiste à prendre au sérieux ces questions qu'on nous adresse toujours. Ah oui, mais il y a des créationnistes, le darwinisme est contesté, il n'est pas contesté dans les laboratoires, il s'agit de travailler sur la biologie de l'évolution. Il est sans cesse confirmé, il avance sans cesse et il affine ses outils de connaissance.
Alors, un aspect très intéressant que vous développez dans un ouvrage qui s'appelle « Le darwinisme et marxisme » qui est publié chez Arquet, c'est votre dernier ouvrage en date, c'est cette idée de la dimension, comment on pourrait dire ça ? Vous appelez ça l'effet réversif de l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, par la civilisation, c'est-à-dire par le fait qu'il privilégie un certain nombre d'acteurs ou d'agents qui ne sont pas les plus forts ou les mieux à même de se défendre, par la civilisation, l'être humain renverserait en quelque sorte l'évolution naturelle.
Alors, ce n'est pas dans darwinisme et marxisme que je parle le plus de l'effet réversif, c'est dans l'effet Darwin, précisément. Au Seuil, donc, qui est un livre qui est sorti fin 2008 pour l'année Darwin, précisément.
En fait, dans darwinisme et marxisme, ce que vous faites, c'est vous faites une longue critique d'Anton Paneckhoek, qui était
Oui, c'est un commentaire d'Anton Paneckhoek, qui était un très grand savant d'ailleurs, un grand astronome et astrophysicien, et qui était en même temps un des critiques de Lénine, et qui critique évidemment de Staline. Il a rompu avec l'un et l'autre au nom du marxisme, c'est assez étonnant. Et en 1909, il va, pour l'anniversaire, le centième anniversaire de la naissance de Darwin, écrire un texte darwinisme et marxisme, que j'ai retraduit avec une équipe de collaborateurs, et qui... et que j'ai commenté précisément d'une façon critique pour montrer effectivement que entre ces deux visions du monde qui sont le marxisme, le matérialisme marxiste et le matérialisme naturaliste de Darwin, il y a effectivement quelque chose qui peut se construire et dont rêvait Marx, c'est-à-dire d'asseoir son matérialisme à lui, qui était le matérialisme historique, sur un socle naturel qui permet de réaliser l'homogénéité de cette connaissance-là qui est quand même la base même de la connaissance scientifique.
Alors, un mot de l'effet réversif, peut-être ?
Alors, l'effet réversif de l'évolution, je vais aller très vite. Le concept a été produit par moi en 1980, mais il faut en faire l'hommage à Darwin. C'est Darwin explique dans La filiation de l'homme, donc que nous republions très prochainement chez Slatkin, il explique que la sélection naturelle ne sélectionne pas seulement dans l'évolution des variations organiques avantageuses, mais aussi des instincts, et que c'est dans l'humanité, c'est une sélection d'instincts sociaux qui a décidé effectivement d'une altération de l'évolution. La sélection naturelle sélectionne ces instincts sociaux qui, eux, sont à l'origine des comportements solidaires, des comportements sympathiques, dit Darwin, des comportements d'aide et d'assistance aux plus faibles et aux plus défavorisés. Ce qui fait qu'à la fin, et pour reprendre une formule que j'ai utilisée des milliers de fois, la sélection naturelle, par le biais des instincts sociaux, sélectionne la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle. Et cela, c'est effectivement, et sans que je l'ai jamais fait exprès, c'est ce qu'on appelle un concept dialectique.
Merci beaucoup, Patrick Thor.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous parlons aujourd'hui de la révolution Darwin en compagnie de vos invités, Franck, sur Europe 1.
Oui, et nous a rejoint Patrice Van Herzel, dont je disais le plus grand bien tout à l'heure. J'ai entre les mains cet ouvrage qui s'appelle Le cinquième rêve, que j'ai dû offrir une bonne cinquantaine de fois dans ma vie. Je trouve que c'est
une bonne idée.
C'est un ouvrage extrêmement passionnant sur l'évolution, d'une façon générale. Et ce que vous nous montrez, Patrice Van Herzel, c'est que cette évolution, elle est moins linéaire, elle est moins mono-axée que ce qu'on pourrait imaginer, en fait.
Il est clair que ce que découvre Darwin est incontestable. Un peu comme si on se mettait à contester, vous parliez des créationnistes, comme si on contestait Newton. Newton, il découvre la loi de la gravitation. Aujourd'hui, tout le monde admet la loi de la gravitation. Simplement, de la même manière que Newton, à un moment donné, il est intégré dans quelque chose de plus vaste, qui va s'appeler par exemple la relativité d'Einstein, qui ne contredit pas la loi de la gravitation. Les pommes tombent et la Terre et la Lune se tournent l'une autour de l'autre et autour du Soleil. Bon, mais simplement ça peut être intégré à quelque chose de plus vaste. Et alors, Patrick Thor, ici présent, travaille énormément à intégrer la théorie darwinienne dans quelque chose de plus vaste, qui intègre tout ce qu'on a découvert depuis Darwin, mais c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui tentent leur chance, si je puis dire, à partir de faits.
On pense à Lynn Margulis, par exemple, avec ses bactéries, qui parle de la coopération, qui insiste sur cette dimension, en quelque sorte.
Et ça n'est pas une contradiction avec le darwinisme.
Mais
le darwinisme... Darwin ne connaissait pas la génétique, alors qu'elle émerge en même temps. Il aurait été ravi, ça.
Il l'appelait de ses voeux.
Les gènes, ce qu'on découvre sur les gènes, ça va tout à fait dans le sens darwinien. Simplement, ce qui se passe depuis quelque temps, c'est que on a la génétique elle-même évolue. Et elle évolue dans un sens, par exemple, qu'on va dire épigénétique. Si j'essaie de résumer en une phrase, ça veut dire qu'on s'aperçoit que les gènes, mais comme les individus, comme les espèces, ne peuvent être compris s'ils sont replacés dans leur relation aux autres gènes, dans leur relation aux autres individus, dans leur relation aux autres espèces. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie évolue peut-être, dirait-on, comme un tissu de coopération ou enfin d'interrelation. Beaucoup plus que comme quelque chose d'atomisé.
Et d'une façon de plus en plus consciente en même temps. On revient à l'effet réversif dont on parlait tout à l'heure.
Alors, est-ce que c'est conscient ? Là, au niveau, vous parlez de Lynn Margulis.
Alors là,
Margulis,
non.
Elle ne parle pas.
Elle parle de bactéries.
Lynn Margulis est une spécialiste des bactéries.
Oui, bien sûr.
Et elle dit, mais les bactéries, c'est extraordinaire d'étudier. Elles ont régné sur cette biosphère pendant 2 milliards d'années au moins. Elles ont à peu près tout inventé, les bactéries. Elles l'ont fait d'une façon qui n'est pas, comme dans la caricature que l'on fait de la vision darwinienne, la lutte de la jungle avec une lutte des uns contre les autres en permanence. Non, elle montre que la lutte, elle existe, mais elle s'inscrit à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus un tissu de parasitage, de symbiose, de coopération. Et ça permet d'expliquer des choses qui... sinon, ne sont pas compréhensibles dans le darwinisme. Par exemple, moi, dans mon, dans un des livres du pithécanthrope
au karatéka.
Du pithécanthrope au karatéka. J'interviewe à un moment donné Coppens, Jean Chaline, Jean-Marie Pell, qui disent, mais comment expliquer, par exemple, vous la connaissez par cœur, Patrick Thore, évidemment, cette question-là, comment se fait-il qu'une orchidée ait pu prendre, par hasard, exactement la forme de l'insecte femelle, qui fait que l'insecte mâle va se trouver leurré et va venir copuler, mais en fait, la fleur a fait ça, entre guillemets, parce que...
Elle ne l'a pas fait en 5 minutes.
Elle ne l'a pas fait en 5 minutes. Mais comment est-ce qu'elle a pu le faire? Comment est-ce qu'elle a pu imiter l'insecte à ce point s'il n'y avait pas des liens d'interrelation entre espèces?
Ce livre du pithécanthrope au karatéka évoque la collaboration entre deux femmes, une orthodontiste et une paléoanthropologue, qui vont justement travailler sur cette évolution concernant appliquée à l'être humain. Hein. C'est d'ailleurs votre sous-titre, c'est la longue marche de l'espèce humaine. On a bien compris que sur un sujet aussi vaste et avec si peu de temps, on était obligé de simplement renvoyer à des lectures, ce qu'a fait allègrement Patrick Thore, et je l'en remercie. Je renvoie aussi nos auditeurs donc à votre dernier ouvrage, Du pithécanthrope au karatéka. Patrice Van Herzel, s'est édité chez Grasset. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir essayé d'éclairer notre lanterne sur ce qu'a été Darwin et sur ce qu'il est encore aujourd'hui. Je pense que nous avons prouvé qu'il était encore très présent. Et puis, tant pis si nous avons un peu parlé aussi des créationnistes.